Bonjour, bienvenue dans les podcasts du Centre d'Action Laïque de la province de Liège qui donne la parole à des citoyens qui veulent défendre la solidarité ou la font vivre au quotidien. Dans la série « Petite histoire de grande valeur », nous donnons la parole à des personnes qui expérimentent la solidarité dans leur vie de tous les jours.
Aujourd'hui, nous écoutons Thomas. Il nous parle de ce qu'il appelle la micro-solidarité, celle qui peut se développer à l'échelle d'une petite entité, son quartier en l'occurrence. Et pour Thomas, tout commence au Sénégal.
Je m'appelle Thomas. Moi, j'ai grandi en Afrique avec mes parents, au Sénégal, où mon papa travaillait comme coopérant. Les souvenirs que je garde sont surtout des moments où on allait dans le sud du Sénégal, en Casamance, c'était le nom de la région, et où c'était vraiment la brousse, quoi. Et je garde des souvenirs, finalement, de choses très simples, de gens très accueillants. J'y suis retourné quand j'avais une vingtaine d'années. Finalement, voilà, on faisait les choses simplement, sans courir, il y avait rien de spécial à faire, je veux dire, à part être avec les gens, et c'était pas de visite touristique, où il n'y a pas grand-chose à y voir, à part une jolie nature et des personnes souriantes et accueillantes. Il a fallu que j'aie 4-5 ans pour conscientiser le fait qu'il y avait des personnes de couleur de peau différentes, quoi. Et donc, que dans les gens qu'on fréquentait, parce que mon papa est quelqu'un qui vient d'un milieu, lui, paysan, donc il a fait des études, mais en fait, à la base, il vient vraiment d'un milieu de la paysannerie pauvre en Belgique, où, voilà, enfin, on faisait juste de l'agriculture de subsistance, quoi. Il y avait deux vaches, un cheval pour tirer la charrue, et puis pour le reste, ben, on cultivait ses champs, et on élevait des poules pour avoir des œufs, et on mangeait ça. Et donc il a toujours gardé cette simplicité, là où ma maman vient d'un milieu plus aisé, mais elle a gardé par contre une très grande ouverture d'esprit et n'était pas dans cette idée de rester dans un milieu qui était le sien. Ils m'ont vraiment, je pense, inculqué cette simplicité et du coup dans leur fréquentation aussi, parce qu'en Afrique souvent, même dans mon avis dans les autres pays pauvres, les expatriés vivent entre eux, quoi. Et généralement ils ont un niveau de vie qui est très très élevé par rapport aux populations locales. Moi j'ai le souvenir que non, donc il travaillait à l'université de Dakar, il y avait un chauffeur pour l'université qui conduisait X et Y, et en fait c'était un copain, quoi, il venait manger à la maison, puis on allait manger chez eux, et donc j'ai vraiment ce souvenir là aussi qu'on fréquentait toutes sortes de personnes, des gens plus riches, des gens plus pauvres, des expatriés aussi, mais des Sénégalais, des gens de la population locale qui vivaient vraiment là, qui vivaient leur réalité, etc.
Alors qu'au Sénégal, sa petite enfance est baignée de simplicité extrême et de profond respect, en Belgique, il découvre que la différence pose de nouvelles questions.
C'est quand je suis revenu en Belgique, quand j'avais 8 ans. C'est la campagne ardennaise du fin fond de la Belgique, où donc finalement, une personne d'une autre couleur, d'une autre religion, ça faisait pas partie du décor habituel. Et où je me suis rendu compte que mes copains de classe, finalement très tôt, vers 8-9 ans, avaient des réflexions sur les étrangers, sur les gens différents, etc. Sans en fait probablement n'en avoir jamais fréquenté. Et ça me marquait, en fait, ça me marquait très fort, parce que moi j'avais justement pas de différence, en fait. J'avais fréquenté des chrétiens, des musulmans, des animistes, des noirs, des blancs, des russes, des français, des sénégalais. Dans les sénégalais, il y a des ethnies différentes, avec des phénomènes parfois de racisme ou de rejet ou d'incompréhension, comme on peut avoir en Belgique avec les différentes communautés qui savent pas toujours se gérer, mais en fait qui se connaissent pas, au fond. Et donc je pense que j'ai vraiment grandi avec ça, ancré en moi, cette idée de finalement, on est tous différents, mais c'est pas pour ça qu'on est plus intelligent. Donc il y avait des grandes valeurs de tolérance véhiculées dans ma famille. Et il y avait aussi, je crois que c'était vraiment par les origines de mon père, des valeurs de simplicité, quoi. Il n'a jamais été dans un mode de vie ou une façon de penser ou d'être ou des fréquentations qui reflétait le fait qu'il avait pris l'ascenseur social, quoi. En tout cas, c'était là, c'était cette idée de dire on fait des efforts, on est tolérant et ouvert sur les différences des autres et sur les autres, simplement, en fait, sans même parler de différence, c'est juste on est ouvert sur les autres. Parce que je pense que déjà pointer le fait qu'il y ait une différence, on est déjà dans un biais de on se distingue finalement, enfin, on est déjà dans un mécanisme un peu, moi, qui me pose problème, parce que je me dis, dès qu'on est en train de pointer la différence, on n'est plus dans le respect, l'acceptation, on est dans la tolérance, c'est-à-dire je te supporte. Parce qu'il faut bien. Ça, c'est la tolérance, le respect, c'est de dire, ok, T'es comme t'es, je suis comme je suis, à la limite, on n'a même pas besoin d'en parler. Et on peut apprécier, ne pas apprécier, c'est pas la question, mais c'est comme ça. Dans le milieu, en tout cas, dans lequel j'ai grandi, c'est pas quelque chose qui était présent. On va plutôt essayer d'être dans l'accueil des personnes pour ce qu'elles ont d'intéressant à apporter.
De l'accueil de l'autre tel qu'il est à la mise en œuvre de la solidarité, il n'y a qu'un pas que Thomas avait besoin de franchir.
Les gens sont super, quoi, ici. C'est vraiment impressionnant. Et dans l'ensemble de mes choix de vie, c'est vrai que j'ai toujours eu envie de me dire ben voilà, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on peut faire pour les autres, pour être plus justement plus solidaire, plus dans l'entraide. Quand j'étais jeune, je pensais qu'on pouvait sauver le monde, je voulais rayer la faim dans le monde, je voulais apporter la paix sur Terre, etc. Et puis bon, moi, je me suis bien rendu compte que c'est pas un truc qu'on pouvait faire tout seul si on n'a pas la cape de Superman, quoi. Et paradoxalement, je suis quelqu'un d'assez solitaire et plutôt introverti pour beaucoup de choses, donc je vais pas me retrouver dans des manifestations ou à diriger une association. Ça, c'est pas moi, quoi. On a une voisine qui a deux petits-enfants qui sont maintenant un peu plus grands, ils ont 5 et 7, mais qui, dans les premières années de leur vie, moi je ne la connaissais pas, je la voyais passer à pied de temps en temps avec ses enfants, mais je ne la connaissais pas. En fait, c'est par les enfants qui sont dans la même école que les miens que je l'ai rencontrée, et ben j'ai appris qu'elle était mère célibataire, qu'elle n'avait pas d'emploi, qu'elle était étrangère, donc étrangère française, hein, je veux dire, et elle n'avait pas droit au chômage pour des raisons administratives comme souvent. Et comme elle était toute seule, qu'elle n'avait pas de famille sur place, que le papa n'était pas investi dans l'éducation des enfants, qu'elle n'avait pas de voiture, ben elle devait aller à l'école et puis à la crèche pour déposer les enfants. Du coup, donc en fait, elle ne pouvait pas travailler. Et je me dis, elle vit à 50 mètres de chez moi. Je suis pas au courant. J'ai une bagnole, je m'en sers quasiment jamais. J'aurais pu lui passer ma bagnole. C'est-à-dire, j'en avais pas besoin. Et ça, on ne le sait pas parce qu'on ne se connaît pas, parce qu'on ne se fréquente pas, parce qu'il n'y a pas de vie de quartier organisée, et parce que voilà, on vit dans nos maisons individuelles, etc. Et ça me posait vraiment un gros problème. Et ça fait des années que je me disais, mais voilà, il faut travailler là-dessus. Il faut faire quelque chose, quoi. Ça prend du temps, mais en même temps, je me dis, c'est vraiment important.
Il y a des circonstances de vie qui sont à la fois douloureuses et pleines de promesses en même temps. La période du Covid en fait partie.
Le Covid est venu et c'était peut-être un peu une opportunité, c'est que bah, j'avais du temps sans en avoir à ce moment-là, parce que bah, j'avais du travail, mais en même temps, c'était très compliqué de travailler avec les enfants à la maison. Et il a fait très beau. Et donc les gens sont beaucoup plus vus. Et comme je connaissais bah, un peu différents voisins à droite à gauche, je me suis dit, bah, c'est l'occasion de faire finalement ce que j'ai toujours envie de faire, c'est de venir... Je vais mettre les gens en contact. Et donc, on a créé simplement un petit groupe de communication sur un célèbre groupe de messagerie dont on ne parlera pas, là, que je ne peux pas citer. Simplement pour mettre les gens ensemble. Et donc, l'idée, c'était de me dire, bah voilà, c'est un lieu de communication qui doit être positif. Donc, c'est pas pour aller se plaindre de ci ou de ça. C'est pas, moi, je vais faire des courses, est-ce que je peux ramener quelque chose à quelqu'un? Et en fait, ça m'a servi aussi, l'aide au quotidien. Ça peut être, oui, sur mon chantier, avoir une ou deux personnes qui viennent toute la journée m'aider, et c'est, waouh, on avance d'un coup, et c'est super. Mais il n'y a pas forcément besoin de dégager 8 heures de son temps et plein de muscles et des outils pour se sentir aidé. Moi, au quotidien, la solidarité, j'en bénéficie avec des gens qui me disent « Ah, c'est chouette ce que t'as fait, t'avances bien, allez, courage !» Des gens qui supportent le fait que c'est un chantier et que donc c'est moche, ça fait de la crasse, ça fait du bruit, et qui me disent « Mais faut ce qu'il faut, et c'est chouette que t'avances, etc. » Et donc qui sont encourageants, simplement en disant « T'inquiète pas si tu fais de la crasse, on est tous passés par là, il faut passer par là, etc. » Des gens qui donnent des conseils, des gens qui viennent un peu simplement papoter, discuter, dire « Bah ça va, est-ce que tu tiens le coup sous la pluie, sous le vent, sous le machin ?» Et ça, en fait, c'est énorme comme force. Et donc c'est des fois simplement 5 minutes, quelqu'un qui vient s'arrêter pour discuter et t'encourager, bah c'est super précieux. La plupart des gens sont extrêmement généreux et empathiques. Il y a du positif à tirer chez chaque personne, quoi. C'est assez phénoménal.
Pour vivre la solidarité, à chacun son approche. Pour Thomas, l'avenir passe par la dynamisation du micro-local, de son quartier, avec ses voisins.
Les petits changements, ils sont possibles, mais il faut dynamiser, ça faut mettre de l'énergie. Et cette énergie, justement, elle vient pas naturellement. Et c'est ça dont je me suis rendu compte, c'est que je me suis dit, c'est vraiment important pour moi de faire ça. J'ai vraiment envie que ça aille beaucoup plus loin, parce que je crois que c'est l'avenir du quartier, c'est l'avenir des sociétés, c'est l'avenir des communautés, etc. C'est vraiment de vivre au niveau local, mais vraiment au niveau micro-local. C'est d'avoir de l'entraide là, parce que le jour où il y aura une catastrophe, on vient de le voir avec les inondations, chacun, en étant un petit peu éloigné, a été donné un coup de main. Les gens qui viennent aider sont les gens de la maison d'à côté, sont les gens de l'appartement du dessus. C'est là que ça se passe, parce que quand on est dans ce jus-là, c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc c'est cette dynamique vraiment micro-locale qui fait que ça va marcher. Mais pour que ça fonctionne, il faut des leaders. Pas des chefs, des rois, des chefs de syndicats, de machin. Enfin, moi, je crois pas à tout ça. Et des leaders, il peut y en avoir plusieurs et de plusieurs sortes, mais c'est des gens qui vont impulser une dynamique. C'est qui vont dire « Allez, on y va, on ferait bien ça ». Organiser un barbecue, c'est pas juste dire je vais compter les saucisses et que les cuire et inviter les gens à mettre des tables. C'est aussi se dire sur qui je peux compter pour faire passer des messages positifs, pour avoir un discours positif sur les choses. Qui sont les rayons de soleil du quartier ? Ceux-là, on a vraiment besoin d'eux aussi.
Thomas identifie des possibilités différentes d'être solidaire tout en respectant les envies et les besoins de chacun. Grâce à son témoignage, nous nous questionnons. Les solidarités sont-elles différentes ? Sont-elles les endroits où elles se mettent en place ?
Merci d'avoir écouté cette petite histoire de grande valeur. Retrouvez-nous bientôt pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à découvrir notre deuxième série de podcasts En lutte pour entendre des personnes qui luttent contre des oppressions. Vous pourrez retrouver l'ensemble des podcasts du Centre d'Action Laïque de la province de Liège sur nos différents réseaux, notre page Facebook, le flux RSS pour votre appli préférée de podcast, Spotify, YouTube et bien sûr le site internet de notre association www.caliège.be.